Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir à nouveau parmi nous Olivier K. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappelle que vous êtes docteur ès lettres et... Il fallait bien que je dise une bêtise. Non, ben, ça c'est ma maladie. Bon. Non, vous êtes docteur ès sciences. Heureusement que tu as corrigé. Et vous êtes... Non, je sais. Ça ne t'empêche pas d'avoir des lettres.
Non, bien sûr, non, mais...
Bon. Et vous
je
ne êtes...
peux pas me targuer d'être docteur ès lettres.
Oui, non, mais vous êtes docteur, tu es docteur ès sciences et neurobiologiste, surtout,
oui, on peut voir
entre
ça comme
autres
ça.
Choses. Voilà. En 2019, en mars 2019, tu nous avais rassurés. Nous avions des neurones neufs tous les jours. Ouf ! En mars 2023, après la période troublée du Covid, tu nous avais fait espérer. Les cellules souches, espoir et incertitude. Aujourd'hui, nous sommes en avril 2024. Nous allons tenter de comprendre, grâce à toi, pourquoi le cerveau humain est si extraordinaire. Et tu as utilisé les formules « devenu si extraordinaire ». Voilà, on te remercie pour ta fidélité et nous t'écoutons.
Bon, alors ceux qui se souviennent de moi savent que j'ai des problèmes pulmonaires et donc je vais brancher ma machine. Ce sera plus confortable pour moi. Voilà. Donc merci beaucoup Madame la Présidente, chère Geneviève. C'est toujours un plaisir de venir à Sarlat. Je disais tout à l'heure à Claude que c'est l'UTL où on est le mieux accueilli de toutes celles que je fréquente. J'en fréquente quand même un certain nombre. Donc voilà, merci pour ça et merci à vous d'être là aujourd'hui pour cet après-midi consacré à notre cerveau, cette espèce d'énorme truc qu'on a sur la tête qui est absolument unique en son genre dans le monde vivant. On a peut-être 20 millions d'espèces animales sur la Terre et aucune n'est dotée d'un cerveau comparable au nôtre en termes de performance cognitive capable de manier autant d'opérations à la seconde que le nôtre. Alors ce cerveau ne s'est pas fait en un jour, bien entendu. Il est l'héritier d'une longue histoire évolutive que je vais vous rappeler dans un instant. Mais auparavant, je voudrais vous montrer ces neurones ici, qui sont des neurones corticaux, des neurones du cortex, que vous avez au-dessus de votre tête, là. Ce sont ce qu'on appelle des neurones pyramidaux. Santiago Ramón y Cajal, qui a eu le prix Nobel en 1906 pour ses travaux sur l'anatomie cérébrale, les appelait les papillons de l'âme. C'est beau, hein, parce qu'il était poète aussi, Cajal. C'était vraiment un homme remarquable. Et alors, ces neurones pyramidaux que vous avez ici, c'est eux qui vous rendent si performants. Vous en avez 16 milliards dans votre cortex. Je vous rappelle que le cerveau, c'est 86 milliards de neurones. Votre cerveau, à peu près, hein, c'est à quelques milliards près. Et vous en avez 16 milliards dans le cortex, notamment de ces neurones pyramidaux, qui sont ceux qui vous permettent d'avoir des capacités cognitives très largement supérieures à la moyenne des animaux. Alors je profite de cette diapo pour vous rappeler très brièvement ce que c'est qu'un neurone. Vous avez ici le corps cellulaire avec le noyau qui contient donc l'ADN, hein, les instructions génétiques qui vous permettent de devenir un homme ou une femme, c'est selon. Et puis, ce neurone, il a des prolongements, ici, vers le haut, que l'on appelle un arbre dendritique. Et c'est là que ce neurone va recevoir tout un tas d'informations en provenance d'autres neurones situés ailleurs dans le cortex ou même ailleurs dans le cerveau. Et tous les petits points que vous voyez ici, vous les voyez, les petits points là, les petites protubérances, on appelle ça des épines dendritiques, et c'est là que vont se construire les synapses, c'est-à-dire les contacts entre des neurones qui envoient de l'information à ces neurones-ci, et ces neurones-ci donc reçoivent l'information par ces petites synapses, qui sont des petites merveilles de biotechnologie absolument incroyables. Vous en avez aussi ici des dendrites, et puis là, vous avez l'axone, un axone qui part, qui va aller rejoindre d'autres cerveaux, d'autres régions du cerveau, pour passer des informations qui auront été digérées dans ces régions corticales. Donc, comme je l'ai dit, ça ne s'est pas fait en un jour, ça a même pris assez longtemps pour en arriver là. parce qu'on partait de rien du tout, je vous rappelle. Hein. Voilà ici une petite rapide histoire de la vie sur Terre. Donc la Terre, 4,5 milliards d'années, milliards, hein, c'est pas des millions, des milliards. Hein. On parle de milliards. La vie, 3,8, 3,5 milliards d'années, avec des cellules assez simples, ce qu'on appelle des prokaryotes, elles n'ont pas de noyau encore. Et puis, il faut attendre probablement, on ne sait pas exactement, parce que évidemment, il n'y a pas trop de fossiles de cette époque-là, de ces petits organismes qui sont les premiers à avoir peuplé la Terre. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai comment les scénarios possibles pour l'évolution de ces premières formes de vie. Environ 2 milliards d'années, les premiers eucaryotes, c'est-à-dire des animaux qui ont des cellules comme les nôtres, avec des noyaux où l'ADN est bien protégé dans le noyau. Et puis les choses évoluent. Et vers 660 millions d'années, on voit apparaître les premiers animaux avec plusieurs cellules, ce qu'on appelle les métazoaires. Et ceux-là commencent à avoir des cerveaux. Les cerveaux les plus anciens, c'est ceux des, par exemple, des méduses, environ 600 millions d'années. C'est là qu'on a trouvé, chez ces animaux, les premières synapses, les vraies synapses, avec communication électrique. Bon, il y avait déjà des signaux électriques dans l'air, mais là, c'est vraiment les vraies synapses telles qu'on les conçoit. Les premières, on les trouve chez les méduses. 500 millions d'années, à peu près, 520, explosion cambrienne. À cette époque-là, il s'est passé des tas de choses sur la Terre, notamment l'oxygène a commencé à saturer, l'oxygène présent dans l'air qui a été fabriqué, je vous le rappelle, par des bactéries. Hein, pendant très longtemps, au départ, il n'y avait pas d'oxygène sur la Terre. Ce sont des bactéries, des cyanobactéries qui ont fabriqué l'oxygène que vous respirez actuellement. Donc, explosion cambrienne, il y a eu explosion de la vie dans les océans et apparition de ce que l'on appelle les bilatériens, c'est-à-dire des animaux à symétrie bilatérale, comme nous. Nous sommes des animaux à symétrie bilatérale, contrairement aux méduses qui sont des radiaires. Voilà, donc et là, tous les grands groupes animaux apparaissent d'un coup. Alors, ce n'est pas sous la forme actuelle, hein, c'est des formes beaucoup plus basiques. Invertébrés, datent de cette époque-là. 400 millions d'années, donc là, on parle de millions, on n'est plus dans les milliards. Hein. 400 millions d'années, premiers animaux terrestres. 220 millions d'années, ancêtres des mammifères. Nos ancêtres sont apparus, on était un petit peu des sortes de reptiles avant, et on devient des mammifères, homéothermes, avec des poils, etc. À peu près, il y a 220 millions d'années. 66 millions d'années, premiers primates, c'est-à-dire les singes. Hein. Et puis ensuite, on arrive dans des individus qui ressemblent davantage à ce que nous sommes aujourd'hui. 7 millions d'années, Toumaï, qui a été trouvé en Afrique, au Kenya. 3,3 millions d'années, c'est Lucie. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous montrer la couverture du dernier numéro de Science, qui célèbre le 50e anniversaire de la découverte de Lucie. Ça fait 50 ans qu'elle a été découverte. Et Lucie, elle ressemblait à peu près à ça. Donc c'est 3,18 millions d'années, Lucie. C'est un représentant des Australopithèques. Des étapes importantes, ça a été également la maîtrise du feu et son utilisation, et puis plus tard sa maîtrise. Alors, on ne sait pas exactement les dates, mais bon, probablement à 400 000 ans, ils savaient maîtriser le feu. Mais certains disent 800 000 ans. Il y a des traces de feu en Israël qui ont 800 000 ans. Enfin, bon, on ne sait pas vraiment. 300 000 ans, apparition de Homo sapiens en Afrique du Nord, au Maroc très exactement, au Djebel Iroud. Et puis, l'évolution après se poursuit. Et vers 70 000 ans, s'est produit ce qu'on appelle la révolution cognitive, c'est-à-dire que les premiers hommes, les premiers Homo sapiens, ont commencé à imaginer des choses, avoir des visions symboliques, à faire des représentations artistiques. Et on considère 70 000 ans, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, on considère que c'est cette date-là. Donc voilà un peu ce qui s'est passé avant nos jours. Voilà. Et alors là, j'en reviens aux primates. Donc vous voyez qu'on vient de loin quand même. Hein. il y a 4 millions d'années ou 3 milliards d'années, on n'avait pas un cerveau comme ça. Personne n'avait un cerveau comme ça. Il est apparu petit à petit. Donc, je reviens aux primates. Donc, l'ancêtre commun des primates, 66 millions d'années, et cet ancêtre commun a donné des lignées dont certaines existent toujours, hein, les lémuriens, tout ça, ça existe. Et je ne sais pas si vous savez lire les arbres phylogénétiques, mais chaque fois que vous avez un croisement comme ça, ici, ça veut dire que tous les animaux qui sont issus de ces branches-là partagent un ancêtre commun. Ils ont des caractères communs, partagent un ancêtre commun. Ça ne veut pas dire qu'ils descendent... Bref. Voilà. Alors, si on suit ces branches, eh bien, on arrive ici à Homo sapiens, qui est ce qu'on appelle un hominoïde. Un hominoïde, c'est des singes sans queue. Donc, c'est les gibbons, les orang-outans, les gorilles, etc. Voilà les hominoïdes vus de plus près. Donc, 20 millions d'années ici. Et on voit ici que on retrouve les mêmes espèces, orang-outans, gorilles, chimpanzés. Et les chimpanzés sont considérés à l'heure actuelle comme étant nos plus proches cousins. Vous savez que vous avez 99,6% de votre ADN dans les régions codantes est similaire à celui du chimpanzé. Ça veut dire que les protéines des chimpanzés et les protéines humaines sont quasiment les mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'elles font exactement la même chose, mais c'est quasiment les mêmes. On retrouve la plupart des gènes humains sont présents chez les chimpanzés. Alors, les chimpanzés et les hommes, le lignage des chimpanzés et celui des hominines, ce qu'on appelle les hominines maintenant. C'est un peu compliqué la nomenclature. Vous avez hominidé ici, homininé, hominini. Bon, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Donc, à 7 millions d'années, ils se séparent, ces deux lignages, et chacun poursuit son évolution séparément. Je vous rappelle qu'il y a deux espèces de chimpanzés, les bonobos et les chimpanzés proprement dit, qui ont divergé il y a environ 1,8 million d'années. Voilà. Donc, on va parler un petit peu des hominines, qui est le lignage qui conduit vers Sapiens. Là, vous avez une image que j'aime beaucoup, que j'ai tirée du Point, une image qui date de 2019, du journal Le Point, qui a deux qualités. D'une part, elle exprime bien ce qu'elle veut exprimer, et d'autre part, elle est scientifiquement juste, ce qui n'est pas toujours le cas pour ce qu'on trouve dans les journaux. Et donc, on voit ici, là-bas au fond, les tout premiers hominoïdes, c'est Toumaï, dont je vous ai parlé tout à l'heure, 7 millions d'années. Il est là-bas au loin, hein, il a été découvert au Tchad. Ici, vous avez Lucie qui a été découverte, si j'ai bonne mémoire, en Éthiopie, il y a environ 3 millions d'années. Et puis après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu apparition de tout un tas de lignages d'homo, parce que là, on est dans le genre homo maintenant, et dont les parentés ne sont pas très bien connues. On n'a pas l'ADN de ces ancêtres, et donc on ne sait pas du tout comment ils sont reliés les uns aux autres. On parle plutôt, il n'y a pas une linéarité qui permet de dire, voilà, il y a Lucie, après il y a un tel, Homo erectus, etc. Donc ça c'est pas comme ça, c'est ce qu'on appelle une évolution buissonnante, et de tout ça, ils se sont probablement hybridés, etc. De tout ça émerge finalement Homo heidelbergensis, qui a probablement donné naissance au Néandertal et au Denisovien, dont je vais vous parler un petit peu plus maintenant, probablement dérivé lui-même de Homo erectus, qui est resté pendant très longtemps dans les parages, vous voyez, 2 millions d'années à 140 000 ans, donc presque 2 millions et Homo erectus. Et puis, on a vu apparaître également à Florès, sur l'île de Florès et sur l'île de Luçon, des petits lignages humains qui ont disparu maintenant et qui n'ont pas eu beaucoup de succès évolutif, ils étaient très petits et ils n'ont pas laissé de survivants. De sorte qu'à l'heure actuelle, si on avait ici 6 ou 7 espèces de Homo, à l'heure actuelle, il n'y en a plus qu'une qui est Homo sapiens. D'accord ? Alors, un petit mot sur les Néandertaliens. Les Néandertaliens, ce sont des héritiers de Homo erectus, Homo heidelbergensis, qui ont quitté l'Afrique il y a environ 1 500 000 ans, qui ont colonisé une bonne partie de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe centrale, et puis qui se sont éteints il y a environ 40 000 ans pour des raisons qu'on ne connaît pas. Ils se sont séparés du lignage des humains modernes il y a environ 600 000 ans, et il y a environ 450 000 ans, de ce lignage-là est parti un autre lignage qui correspond aux hommes de Denisova. Les hommes de Denisova ont été trouvés, enfin on n'a pas trouvé grand-chose, en fait, on a trouvé quelques dents, des phalanges, mais l'ADN a parlé, on connaît l'ADN mitochondrial de ces Denisoviens. Ils ont été trouvés dans une grotte que vous voyez ici, qui se situe dans les monts de l'Altaï, à la frontière de la Mongolie, de la Russie et de la Chine. Et les éléments qu'on a trouvés appartiennent à une jeune fille qui avait 13 ans et qui a été datée de 70 000 ans. Ces Denisoviens, ils ont colonisé une bonne partie de l'Asie, une bonne partie de l'Asie du Sud-Est, et on retrouve d'ailleurs, d'un point de vue génétique, on retrouve pas mal de gènes de Denisoviens dans ces régions-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sapiens, il y a déjà eu une première sortie d'Afrique, mais ce n'est pas Sapiens, c'est Erectus, Néandertal, etc. Sapiens, lui, il ressort d'Afrique, la deuxième sortie d'Afrique, environ 70 000 ans, on n'est pas sûr de cette date, et il va coloniser l'ensemble de l'Eurasie, les Néandertaliens du côté de l'Europe et les Denisoviens du côté de l'Asie, et ils vont s'hybrider. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des relations sexuelles, ils vont avoir des descendances, et dans chacun d'entre vous, ici présent, il y a des restes de gènes de Néandertaliens. Vous avez de 1 à 2% de gènes qui viennent des Néandertals. Et si on prend tout l'ensemble de la population d'Europe de l'Ouest, et qu'on prend tous les segments d'ADN qui correspondent à des gènes Néandertaliens, on est capable, avec ces morceaux de gènes, qui sont en chacun d'entre nous, de reconstituer environ la moitié du génome des Néandertaliens. Donc, tout ça est extraordinaire. Et alors, de l'autre côté, les hommes de Denisova qui ont donc peuplé l'Asie et l'Asie du Sud-Est, eux, ils ont laissé jusqu'à 6% de leur ADN dans les populations de ces régions-là. Et voilà, donc ils n'existent plus, mais leur gène existe toujours. Comment on sait tout ça? On sait tout ça grâce à des gens qui font de la paléogénomique, c'est-à-dire qui étudie les ADN anciens, et en particulier à Svante Paabo et à ses équipes, qui a reçu le prix Nobel en 2022 pour ses découvertes concernant les génomes des hominines éteints et l'évolution humaine. Donc Svante Paabo, c'est un personnage assez intéressant. Il est suédois d'origine. Il a passé sa thèse à l'université de Uppsala, je crois que je n'allais pas trouver le mot. Et voilà, et quand il était jeune, il a travaillé sur l'ADN des momies égyptiennes. Et il avait publié un article très célèbre, sauf qu'il s'est aperçu après que ce qu'il avait publié, c'était pas de l'ADN de momies, c'était de l'ADN, des morceaux d'ADN de bactéries qui avaient contaminé ces momies. Et donc il a passé 10 ans, 20 ans à essayer de purifier au maximum, d'améliorer les techniques d'extraction et de purification d'ADN ancien pour arriver au résultat extraordinaire auquel il est arrivé aujourd'hui, parce que reconstituer l'ADN de personnes qui sont décédées il y a des dizaines de milliers d'années, c'est quand même pas rien. Surtout quand ça permet d'établir un petit peu des filiations entre les différents lignages qui sont arrivés à ce moment-là. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout un tas de choses. Une des premières observations qu'on peut faire, c'est que quand on regarde ces différents fossiles, on voit clairement qu'il y a... Alors ici, c'est le temps, hein, donc c'est moins 10 millions d'années. Là, c'est le présent. Et puis là, c'est le volume du cerveau. Et on voit très bien qu'au fil du temps, on a une augmentation assez drastique du volume du cerveau, avec un point d'inflexion ici... qui n'est d'ailleurs pas un point d'inflexion, facile, et qui marque en fait l'apparition de la bipédie. La bipédie a été quelque chose de déterminant pour l'augmentation du volume du cerveau. Pourquoi? Bon, nos ancêtres sont devenus bipèdes pour des raisons probablement climatiques, les forêts, changement de climat, sécheresse, développement des savanes, et certaines populations ont commencé à passer plus de temps dans la savane et moins de temps dans les arbres, et du coup, ils sont passés plus de temps en position debout qu'accrochés aux arbres, et ça a conduit à cette évolution absolument extraordinaire qui a été relativement rapide. Hein. Regardez ici, on est à 2 millions d'années, et là, on est à 0 million d'années. Hein. Donc, voilà, on a tous les différents cerveaux des individus dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez qu'on part de quand même d'assez bas. Hein. Un singe anthropoïde, c'est 300 cm cubes. Lucie, c'est 350. Et nous, on est à 1500. Non, j'exagère, c'est Néandertal a été à 1500. Nous, on est à 1350 en moyenne chez les hommes. Chez les femmes, c'est un peu moins, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins intelligentes. Hein. J'ai pas dit ça. Hein. C'est juste qu'elles sont un peu moins grandes. Voilà. Donc, ben voilà, j'avais rien d'autre à dire là-dessus. Donc ça, la bipédie, ça a été vraiment quelque chose qui a changé la donne, parce que les gens se sont redressés pour marcher. Ça a permis au trou occipital de s'aligner avec la colonne vertébrale, de supporter un plus gros cerveau, de libérer les mains. Et quand on libère ses mains, on fait des choses avec et on développe tout un tas de nouvelles capacités qu'on n'avait pas avant. Donc on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais en gros, c'est ça. Tous ces gens fabriquent des outils, alors plus ou moins sophistiqués. Les plus sophistiqués, c'est évidemment les plus restants. Les plus anciens, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3,3 millions d'années. On appelle ça l'industrie Lomekwienne, pas du lieu où on l'a trouvé. Et évidemment, plus on progresse, et plus ces outils sont travaillés et finement ciselés. Donc voilà. Donc ça, c'est un article, la couverture de Nature, d'un numéro de Nature en 2015, qui titre « L'aurore de la technologie, l'aube de la technologie ». Ils ont découvert donc ces outils de 3,3 millions d'années à Turkana, au Kenya, c'est au bord de ce lac où il y a tous ces flamants roses, là. On voit souvent des photos de ce lac. Et donc c'est des outils assez grossiers, mais clairement, ils ont été taillés et ils ont été datés de 3,3 millions d'années, ce qui reculait de 1,5 million l'âge des plus anciens outils qu'on connaissait à l'époque. C'est pour ça que ça a fait la couverture de Nature. Voilà, ils ont été trouvés ici, donc en bordure de ce lac, pas très loin en fait de l'endroit où on a trouvé Lucie, qui a été trouvée ici en Éthiopie, à Adar. Et donc on peut imaginer que Lucie, elle utilisait des outils, déjà des outils de ce type-là. Après, le temps passe, hein, on va pas... Voilà, et j'en arrive tout de suite à cet objet ici, cet artefact, qui a été trouvé dans une grotte d'Afrique du Sud, la grotte de Blombos, qui est datée de moins 73 000 ans, et qui est considérée comme le premier exemple d'art abstrait réalisé par des ancêtres de Sapiens. Donc on voit ce bloc d'ocre sur lequel on a des dessins géométriques qui clairement n'ont pas été faits par un animal. Ça a été obligatoirement fait par un hominine. Voilà. On a trouvé aussi à proximité des coquillages percés, probablement des colliers, également des pierres taillées, mais très très bien taillées. Et puis, un peu plus tard, eh bien, on trouve d'autres artefacts à consonance symbolique, comme cette statue de l'Omnion, qui est très célèbre, qui a été trouvée en Allemagne, moins 40 000 ans. C'est un os de l'ivoire d'éléphant. Il a été taillé dans l'ivoire d'éléphant. Donc, imaginez un hybride entre l'homme et un lion. C'était quelque chose qui est un petit peu nouveau à cette époque-là. Et puis, plus récemment, ben, on a trouvé des tas d'artefacts fabriqués par des hommes anciens, et notamment cette dame à la capuche, que je vous montre parce que je l'aime beaucoup, qui était trouvée dans les Landes, à Brassempuy, et qui a moins 25 000 ans. Vous pouvez aller la voir au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain. Donc, on le voit, une progression vers une cognition qui n'est plus entièrement basée sur la réalité, mais qui commence à s'inscrire dans un monde symbolique et tout à fait intéressant. Ça, c'est Chauvet. Bon, je ne vous ai pas mis Lascaux parce que vous connaissez. Chauvet est un peu plus âgé que Lascaux, c'est moins 32 000, moins 36 000. Très riche, il y a 450 peintures d'animaux à Chauvet. Il y a, ces animaux représentent 14 espèces différentes. Ici, à Lascaux, je crois qu'il n'y en a que 7 ou 8. Bon, enfin, voilà. Et puis, bon, après, avec les hommes humains, on arrive dans l'explosion de découvertes que vous connaissez, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui sont tout à fait extraordinaires. Vraiment, c'est extraordinaire d'imaginer qu'en partant de rien, on arrive à envoyer des gens sur la Lune, à fabriquer des TGV, à écrire l'œuvre au noir, ou à décortiquer la molécule d'ADN. Voilà. Pendant ce temps, nos cousins, les chimpanzés, ils sont restés au même endroit, ils n'ont pas bougé, et ils continuent à sucer la brindille à termites, même s'ils construisent des sociétés relativement structurées, avec des liens sociaux qui sont quand même très avancés par rapport à des tas d'autres animaux. Et donc, la question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi nous, on a développé ce cerveau extraordinaire et pourquoi eux sont restés avec un cerveau beaucoup moins développé, je vous l'ai dit tout à l'heure, environ 300 cm3. Voilà, donc, ils n'ont pas développé des caractéristiques cognitives et comportementales identiques à celles de Sapiens. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Vous les connaissez. Alors, je n'ai pas encore parlé du langage. Le langage, j'en reviendrai tout à l'heure, mais c'est quelque chose, on ne sait pas trop d'où il vient, ni à quelle époque il est apparu, et comment il a évolué. On a quelques indications, mais ce n'est pas facile, parce que les fossiles ne nous disent pas grand-chose. Langage syntaxique grammatical, vous êtes tous capables d'articuler pour faire des phrases, etc., de raisonner, vous avez des capacités d'attention très développées, vous êtes capable de planifier à long terme, vous avez une mémoire autobiographique, vous vous rappelez de votre jeunesse, etc. Vous avez une théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est ça, la capacité à se mettre, à prêter aux autres des attentions. Vous voyez quelqu'un là-bas, vous dites, oh, celui-là, il va faire ça, et effectivement, il le fait. Ça, la théorie de l'esprit. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont capables de faire ça. Certains animaux, les singes savent faire ça, mais pas tout le monde. La pensée symbolique, vous êtes capable d'imaginer des tas de choses, l'utilisation d'outils extrêmement sophistiqués, et création artistique et littéraire extrêmement sophistiquée également. Tout ça, on le doit au développement de notre cortex cérébral. Cortex cérébral, c'est tout ce que vous avez au-dessus de la tête, à cette espèce de casque, qui, c'est pas seulement la partie en rouge, la partie en rouge, ici, le cortex frontal, celui avec lequel vous planifiez, mais l'ensemble de ce casque que vous avez sur la tête, c'est vraiment un casque, c'est ce que l'on appelle le cortex. Alors, pourquoi est-ce qu'on a acquis ces capacités tout à fait remarquables? On va essayer de comprendre comment les choses se sont passées. Bon, premièrement, on a un gros cerveau. Ce n'est pas le plus gros cerveau de la Terre. Vous avez le cachalot ici, il a un cerveau de 9 kg. Nous, on a un cerveau d'un kilo et demi. Bon, c'est pas mal, mais ce n'est pas un cachalot, quoi. Alors, si on regarde la taille relative du cerveau en pourcentage du poids chez divers animaux, eh bien, on voit que, par exemple, les gros animaux, ils sont très désavantagés. Par exemple, un éléphant qui a un très gros cerveau, c'est seulement 0,1% du poids du corps. Un ouistiti qui a un petit cerveau, mais qui est tout petit, lui, c'est 2,7%. Donc, on voit que ce mode de calcul n'est pas très intéressant, en fait. Ça met Sapiens à 2%, c'est honorable, mais bon, c'est pas le meilleur. Sapiens a néanmoins le plus gros cerveau de tous les primates. Hein. Ça, c'est des cerveaux à l'échelle de tous les primates qu'on connaît. Les gibbons, les orang-outans, les gorilles, etc. De loin, Sapiens a le plus gros cerveau. Un cerveau de Sapiens, c'est 3 fois un cerveau de chimpanzé. 4 fois, si on le poids sec, c'est 4 fois. Voilà. Alors, si maintenant on compte le nombre de neurones, alors il y a des gens, et notamment Susana Herculano-Guzel, une collègue qui est brésilienne mais qui travaille aux États-Unis, elle a développé des techniques très fines pour compter exactement le nombre de neurones et de cellules que l'on a dans notre corps ou dans notre cerveau. Alors, elle a trouvé un chiffre intéressant de 251 milliards de neurones. Ce sont les milliards. Hein. 251 milliards de neurones chez l'éléphant, 86 milliards de neurones chez Sapiens. C'est pas mal compte tenu du fait qu'on est beaucoup, beaucoup plus petit. Chimpanzé 22, etc. Si maintenant on regarde le nombre de neurones corticaux, c'est-à-dire ceux que je vous ai montrés tout à l'heure avec les beaux arbres dendritiques, là, on est les champions absolus, 16,3 milliards de neurones dans notre cortex. Un éléphant, par exemple, c'est 5,6, un gorille, c'est 9,1, etc. Donc, clairement, on a un avantage en termes du nombre de neurones corticaux. Alors, intéressons-nous un petit peu à ce cortex. Il a évolué dans la lignée des mammifères, bien sûr. Là, vous avez un cerveau de hérisson, un cerveau d'un petit singe qui s'appelle le Galago, et un cerveau humain. Et l'on voit très bien que ce cerveau a grossi, et puis qu'en même temps qu'il grossissait, il s'est plissé. Il a des circonvolutions, ce qu'on appelle des gyres et des îles, permettent in fine d'augmenter la surface de ce cerveau. Alors si on regarde un petit peu les zones du cortex et à quoi elles servent, alors un cerveau c'est quoi? Un cerveau ça vous sert à percevoir votre environnement, à regarder où vous êtes, etc., percevoir tout un tas de paramètres grâce à vos systèmes sensitifs. Ces informations remontent au cerveau dans les régions sensitives qui sont figurées ici en bleu. Par exemple ici, le cortex occipital, c'est des aires visuelles. Et voilà. Donc le cerveau intègre tout ça, digère tout ça et va renvoyer une information par les systèmes moteurs. Et les systèmes moteurs, vous allez faire des actions avec. Par exemple, vous voulez une glace au chocolat, vous pensez à la glace au chocolat, vous avez vu qu'il y a un marchand de glace au chocolat, ça remonte, et votre cerveau, votre cortex moteur envoie les ordres pour que vous puissiez aller acheter votre glace au chocolat. C'est comme ça que ça marche, un cerveau. C'est une interface, en fait, entre vous et le monde extérieur. Alors, donc, je vous ai parlé des aires sensorielles, qui sont en bleu. En rouge, ce sont les aires motrices, celles qui renvoient les ordres. Et puis, vous avez ici des tas de territoires cérébraux qui sont bordés de jaune. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des aires associatives. Ce sont des aires qui sont connectées les unes aux autres et qui vous permettent de recevoir des informations. On les appelle aussi multimodales, plurimodales, parce qu'elles reçoivent des informations de tous les systèmes sensoriels. Et ça, ça vous permet d'intégrer. Vous intégrez tout ça, vous faites votre propre représentation du monde, vous êtes conscient de là où vous êtes et c'est ça qui va vous permettre, en fait, d'être si performant sur le plan cognitif. C'est l'intégration de tous ces paramètres et qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà, on a une augmentation des aires associatives. Voilà, pour cette diapo, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, alors ce cerveau, on l'a divisé, il a été étudié en long, en large, en travers et continue à l'être. Il a été divisé d'abord en quatre lobes très basiques que vous connaissez, lobe frontal, pariétal, occipital, temporal. Et puis, alors il y a des gens qui se sont penchés là-dessus pour essayer de regarder plus précisément comment on pouvait faire des territoires. Et un qui a vraiment marqué les esprits, c'est ce monsieur, Corbinian Brodmann, qui était un chercheur allemand, qui était né du côté de Constance, et qui a, en 1906, publié cette cartographie cérébrale où le cerveau, le cortex, est divisé en 52 aires, que l'on appelle les 52 aires de Brodmann. Le travail était tellement excellent, on se demande même comment il a pu aboutir à ce résultat qui n'a jamais été remis en cause. Les aires de Brodmann sont encore utilisées tous les jours. Il a fait ça sur la base de coupes histologiques, et sur la base de l'organisation des territoires dans les régions qu'il regardait, et il est arrivé à ces 52 aires de Brodmann. Alors évidemment, l'histoire n'est pas finie. À l'heure actuelle, il y a des projets, des très gros projets internationaux qui cherchent à cartographier encore un petit peu mieux ce cerveau. Alors là, par exemple, le projet Big Brain, ils ont coupé un cerveau en tranches, ils ont scanné toutes ces tranches, et avec ça, ils font des reconstitutions 3D extrêmement détaillées qui sont disponibles sur Internet. Vous pouvez y aller, vous allez trouver toutes ces coupes. C'est assez, assez fascinant. Et puis d'autres qui reprennent un peu le travail de Brodmann, mais en essayant de l'affiner encore plus pour voir à quoi tel ou tel territoire peut correspondre. Et puis si vous avez écouté les infos la semaine dernière, vous avez peut-être vu cette image, qui est une image absolument extraordinaire, qui a été générée par au laboratoire Neurospin, qui est un laboratoire du CEA sur le plateau de Saclay, et qui a été obtenue grâce à la plus grosse IRM du monde, qu'ils ont baptisée ISE. Donc c'est un énorme aimant qui pèse 139 tonnes, je crois. On met les gens dedans, vous avez déjà passé des IRM, c'est la même chose, sauf que là, l'IRM est beaucoup plus puissante et vous permet d'avoir des détails tout à fait extraordinaires. Cette image-là, c'est une image d'un cerveau vivant. Là, il y a une personne là, qui correspond à ce cerveau et on ne la touche pas et on obtient cette image exceptionnelle. Donc, c'est les images les plus précises qu'on ait jamais pu générer du cerveau humain vivant par IRM. Et il est très probable que dans l'avenir, cette IRM sera utilisée massivement pour essayer de guérir un certain nombre de pathologies ou de mieux les comprendre, notamment tout ce qui est pathologie neurodégénérative. Donc voilà, on a donc sur cette coupe, on voit ici le cortex. Ça, c'est le cortex. Ici, c'est le cortex occipital avec les aires visuelles ici. Ça, c'est le cervelet. C'est une région qui contient ici énormément de neurones qui sert au contrôle moteur, mais pas seulement. Ça sert aussi à l'affectif, à la cognition, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici ? Ici, on voit l'hippocampe, cette région dont je vous avais parlé, qui génère des neurones tout au long de la vie. Voilà. Donc, c'est vraiment extraordinaire, extraordinaire. Voilà, alors, on a beaucoup de neurones, mais les neurones, c'est très bien, mais ça ne sert à rien s'ils ne sont pas connectés. Si on veut que ça crée de l'information, que ça génère de la cognition, il faut les connecter. Alors là, en termes de cognition, c'est extraordinaire. Regardez, on a 100 000 km de fibres myélinisées. Alors, je ne vous ai pas parlé de la myéline. La myéline, c'est la gaine de myéline, c'est ce qui isole les axones. C'est produit par les oligodendrocytes. Ça s'enroule autour des axones et ça permet à l'influx nerveux, ce petit signal électrique qui se propage de neurone en neurone, de se déplacer beaucoup plus vite que si on n'avait pas de myéline. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vient de découvrir que le gène qui fabrique la myéline est un gène qui a été capturé à partir d'un rétrovirus. C'est-à-dire, si vous êtes intelligent, c'est grâce à un rétrovirus qui a envahi des cellules d'un de vos ancêtres et qui s'est répandu dedans et qui a gardé une fonction, qui est cette fonction de fabriquer ce qu'on appelle la rétromyéline maintenant. Donc c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Moi, je suis fasciné par ça. C'est vraiment magique. Donc, on a beaucoup de neurones qui sont connectés les uns aux autres. Ça fait au total 1 million de milliards de connexions, donc 80% dans le cortex cérébral. Ça, c'est des images qu'on obtient également avec des IRM. C'est ce qu'on appelle des diffuseurs de tension, ou tenseurs de diffusion, pardon. Et c'est basé sur le fait que le déplacement des atomes dans les structures cérébrales dépend un petit peu de ce qu'il y a autour. Et il y a notamment une technique qui permet de profiter du fait que dans des fibres, il y a de l'espace devant et derrière. Et donc, on peut voir ça par opposition à ce qui n'est pas dans les fibres et qu'il va avoir une autre couleur. Donc, voilà ici une représentation de tout un tas de tractus nerveux qui sont symbolisés par des couleurs ici. Et ça, c'est une image que j'ai tirée d'un livre de Stanislas Dehaene. Je ne sais pas si vous connaissez Stanislas Dehaene. C'est un des plus grands neurobiologistes du monde. Il est français. C'est lui qui est à l'origine du laboratoire Neurospin dont je viens de vous parler. Et dans son livre « Face à face avec son cerveau », que je vous conseille, c'est vraiment un livre intéressant. Il n'y a que des images dedans. Il vous montre ici les connexions dans un cerveau de l'un de ses patients. Et ce qu'il montre aussi qui est très intéressant, c'est que chacun, tous autant qu'on est ici, on a tous des connexions différentes dans le cerveau. On voit bien qu'on retrouve un petit peu les mêmes couleurs d'un patient à l'autre, enfin d'un homme à l'autre ou d'une femme à l'autre, mais avec des variations. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas deux cerveaux identiques dans cette salle ou même dans le monde entier. D'accord ? C'est clair ? Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, je ne me dérange pas. Voilà, alors parlons un peu de la structure de ce cortex, parce que c'est ça le fond du problème, en fait. Donc si vous avez trois cerveaux, souris, à l'échelle, ils sont à l'échelle relative en tout cas, chimpanzé et sapiens. Si on fait une coupe au milieu, à peu près ici, voilà ce qu'on va voir. Chez la souris, je l'ai agrandie parce que sinon elle est trop petite, ce qu'on voit, c'est que le cortex chez la souris, il est lisse, ce qu'on appelle un cortex lisencéphalique. Donc c'est le cortex, c'est juste ça, hein. Ça c'est le striatum, c'est les régions impliquées dans, dans le mouvement, etc. Ça c'est l'aire de Broca, le septum latéral, pardon, voilà, etc. Bon, on passe au chimpanzé, le chimpanzé a déjà un cerveau extrêmement plissé, mais c'est notre cousin germain, hein, donc c'est pas très surprenant. Et puis si on regarde Sapiens, il est encore plus plissé, et si on fait des coupes à l'intérieur et qu'on regarde l'organisation des territoires, des cellules, des différentes couches de ce cortex, et qu'on fait ça, etc., les insectivores, qui sont des petits mammifères, et puis les rongeurs, rats, souris, des carnivores, le furet, le chien, etc., les primates et les humains. Et ce qu'on voit quand on regarde la structure de ces couches, l'organisation, on voit que chez la souris, par exemple, on a un cortex à 6 couches, et puis quand on arrive chez l'homme, on a un cortex à 9 couches, parce que certaines de ces couches se sont divisées en sous-couches. Donc on voit par exemple si les couches 2 et 3, elles sont surreprésentées ici. Et ça c'est très important, parce que ces couches, c'est les couches qui vous rendent intelligent. C'est les couches dont les neurones envoient des projections un petit peu partout dans le cortex et qui permettent de faire ces fameuses associations qui vous permettent vraiment d'avoir une conscience de vous-même et du monde. Donc voilà. Alors du coup, ce cortex, 16 milliards de neurones, je vous l'ai dit, 164 milliards de synapses à peu près, 4 mm d'épaisseur, et cette invention de l'évolution, que de plisser le cerveau pour essayer d'en mettre le plus possible, ça fait que si vous dépliez votre cortex, vous avez une surface de 2 mètres carrés. Donc c'est considérable, si vous y réfléchissez, 2 mètres carrés de cerveau, quoi, de cortex, bourré de cellules pyramidales, capable de faire des choses extraordinaires. Voilà, voilà une autre représentation. Ici, là, vous reconnaissez la photo que je vous ai montrée sur la première diapo. On voit un petit peu l'évolution. Donc la souris, c'est relativement simple, pas beaucoup de neurones. Et puis le macaque, c'est déjà un petit peu mieux. Le chimpanzé, encore beaucoup mieux. Et l'homme, alors là, on est une véritable forêt. On ne reconnaît rien du tout, tellement c'est sur les uns sur les autres, tout est emmêlé. Et vous voyez qu'il y a des neurones de deux couleurs différentes, des verts et des rouges. Les verts, c'est les couches profondes, et les rouges, c'est les couches superficielles. Les couches superficielles, on le verra dans un instant, c'est celles qui se forment en dernier au cours du développement cérébral, et les connexions entre ces neurones des couches superficielles sont celles qui vont se faire le plus tardivement au cours du développement, notamment des enfants. Et c'est ça qui est très important pour comprendre les raisons pour lesquelles on a ces capacités cognitives. C'est que ces capacités cognitives sont acquises alors que les enfants sont déjà socialisés dans un environnement extrêmement enrichi, qui est l'environnement que la famille ou la société dans son ensemble peut offrir. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Sans parler que les enfants commencent à parler vers l'âge de 2 ans. Alors la question, c'est comment on fait pour mettre plus de neurones dans son cortex et par rapport à d'autres qui en ont moins, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout d'un coup, chez l'homme, on a tout plein de neurones? Là, il faut s'intéresser un petit peu au développement du cerveau. Je vous rappelle très brièvement que le cerveau, au début, c'est un tube qui se forme à partir d'une plaque neurale. Bon, ça va, on ne va pas faire un cours d'embryologie. Vous avez un tube qui va faire des vésicules qui vont grossir petit à petit au cours du développement. Là, on est pendant la vie utérine. Là, on est à 3-4 semaines de développement intra-utérin. Là, 5 semaines, vous avez des régions du tube qui commencent à grossir et à se différencier sous l'influence de gènes qui libèrent des protéines qui sont des protéines, des facteurs de transcription, etc. C'est un peu compliqué, mais toujours est-il que ça se développe en général de manière harmonieuse. Pas toujours, mais en général. La partie en avant, ici, c'est ce qui va donner le télencéphale, c'est le cerveau antérieur, c'est ce qui va donner le cortex, à la surface, à la périphérie. Et ce tube, il est bordé de cellules que l'on voit ici, qui sont les cellules qu'on appelle neuroépithéliales. Au début, elles sont juste très simples, c'est des cellules qui sont en bordure du ventricule, puis ont des grands prolongements qui vont jusqu'à la périphérie du cerveau. Ces cellules jouent un rôle critique dans le développement cérébral. C'est comme ça que votre cerveau est né, à partir de ces cellules. Alors, ce sont des cellules souches. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? Eh bien, c'est des cellules, je vous en ai déjà parlé de ça, je crois. Vous avez peut-être oublié. C'est des cellules magiques. C'est des cellules qui vont à la fois être capables de faire des divisions symétriques. Donc, une cellule donne deux cellules identiques. Donc, ça permet de multiplier le nombre de cellules souches. On comprend bien, à chaque fois, on multiplie par deux. Et puis, quand les conditions sont bonnes, quand l'environnement de la cellule est approprié, elles vont être capables de faire des divisions asymétriques qui vont donner une cellule souche. Donc, on entretient le stock, on n'en perd pas quand on fait de la différenciation. Et puis, des cellules qui se différencient en l'un des 230 types cellulaires de votre organisme, et notamment des neurones. Donc, voilà, les cellules souches sont les cellules qui sont capables de donner tous les types... Les cellules souches de l'embryon. Zappez ça et oubliez ça. Donc, là, on a des cellules souches qui sont capables de faire de la multiplication cellulaire. Donc, je vous rappelle que nous, en tant qu'adultes, on a, alors que je ne dise pas de bêtises, 40 000 milliards de cellules dans notre organisme. Et je vous rappelle que vous êtes tous nés d'un œuf, c'est-à-dire d'une cellule unique. Ça veut dire qu'il a fallu faire beaucoup de multiplication, puis pour faire vos organes, vos jambes, vos bras, votre tête, vos yeux, il a fallu faire de la différenciation. Tout ça se fait avec des cellules souches, c'est vraiment les cellules magiques du cerveau. Et à l'heure actuelle, vous avez encore des tas de cellules souches partout. Je vous rappelle que vous changez les cellules intestinales tous les 4 jours, les cellules de la peau tous les mois, et si on parle des testicules qui fabriquent des millions de spermatozoïdes à la seconde, tout ça c'est fait à partir de cellules souches. Donc c'est vraiment les cellules extrêmement importantes de votre organisme. Dans le cerveau, les cellules souches, c'est des cellules que l'on a au départ appelées des cellules gliales radiaires. Les voilà ici, dessinées par les tout premiers neuroanatomistes. Vous voyez, ce sont des cellules qui ont des grands prolongements radiaires. Ça, c'est le cortex, ici, avec ici, vous auriez le ventricule, et ici, vous auriez la surface du cortex. Et les cellules, elles ont des petits noyaux qui sont en bordure des ventricules et des grands prolongements radiaires qui traversent toutes les couches du cortex. Les voilà représentés par Ramón y Cajal, ici par Rakis. Rakis a ajouté une nouvelle information très importante, c'est que des neurones qui naissent dans cette région utilisent les prolongements radiaires pour ramper en quelque sorte et gagner les couches plus profondes du cerveau. C'est comme ça que votre cerveau est né. Il est né à partir de cellules qui naissent dans cette région et qui rampent le long des prolongements radiaires pour aller gagner des couches plus profondes. J'ai ici une petite vidéo qui va vous montrer ça beaucoup mieux que je ne saurais l'expliquer. Donc, c'est une vidéo qui vient de Harvard, d'un laboratoire d'un monsieur très célèbre qui s'appelle Christopher Walsh. Et ils ont produit cette vidéo. Donc vous avez ici l'embryon, elle est toujours dans la vie intra-utérine, le ventricule, le cortex, et puis on va zoomer sur une petite région ici, voilà. Et vous voyez ici les cellules gliales radiaires qui commencent à faire des divisions symétriques et puis qui, après, vont commencer à faire des divisions asymétriques pour donner des neurones. Vous voyez, ça c'est les neurones qui naissent, qui migrent le long de des prolongements radiaires pour gagner les couches plus profondes du cerveau. D'accord, c'est clair? C'est comme ça que s'est développé votre cortex. Alors évidemment, c'est très compliqué, je vous fais la version simple là. Et alors le processus va s'accélérer, et pendant qu'il s'accélère, évidemment, il y a une accumulation de cellules qui va faire que le cortex petit à petit s'épaissit. Et puis, il va se passer quelque chose qui ne se passe que chez l'homme et certaines espèces de carnivores, c'est qu'on va avoir des nouvelles cellules gliales radiaires qui vont apparaître au milieu du cortex et générer à tour de bras des cellules des couches superficielles. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez, dans les couches les plus basses, c'est les plus vieux neurones, et dans les couches les plus externes, c'est les nouveaux neurones, les neurones les plus récents, les cellules les plus jeunes, d'accord? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les cellules qui vont établir des connexions avec tout le cortex, ces connexions cortico-corticales. Là, vous avez compris le principe, c'est comme ça. Bon, après, c'est un peu plus compliqué. Certains de ces neurones vont devenir excitateurs, d'autres sont inhibiteurs. Vous avez des interneurones, vous avez des cellules, des oligodendrocytes, etc. Mais tout ça, on n'en parle pas parce que c'est trop compliqué. Et puis surtout, je n'aurai pas le temps de vous en parler. Alors, ça, c'est une diapo qui résume un petit peu. Ici, vous avez le temps avec les différents stades de la gestation. Donc, c'est des semaines. Semaine 8, semaine 13, etc., semaine 30, la naissance, c'est là, puis là, c'est le développement extra-utérin, hein, les enfants et les jeunes adultes. On voit donc au début les cellules neuroépithéliales qui lancent des grands prolongements, lesquels donnent des neurones qui migrent et qui vont s'installer ici. Et tout d'un coup, on a apparition, à peu près à la moitié du cortex, d'une nouvelle population de cellules gliales radiaires qui va générer les couches les plus profondes du cerveau. Ça n'existe pas chez la souris. C'est quelque chose qui est spécifique aux primates et à quelques espèces de carnivores. D'accord ? Et donc, vous avez cette accumulation de neurones dans les couches profondes. Vous voyez que là, donc, on génère les couches 2 et 3, c'est-à-dire les couches superficielles du cerveau, celles qui vont vous donner cette puissance de calcul extraordinaire que le cortex est capable de générer. Voilà, et vous voyez que ça se passe au cours du développement intra-utérin, mais l'établissement des synapses, c'est-à-dire des contacts entre toutes ces cellules, ça va se produire un petit peu plus tard, et c'est pour ça qu'on est devenu ce que nous sommes, en grande partie, pas que, mais c'est un des paramètres. Voilà. Alors, c'est bien joli tout ça. Quelle heure il est ? Bavard. Hein. Maintenant, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ça se passe comme ça ? Est-ce qu'il y a dans le génome des instructions nouvelles qui font que c'est comme ça et que c'est pas comme c'était avant ? Alors, on va en parler un petit peu. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous expliquer 2-3 trucs qui sont un petit peu plus compliqués, mais bon, j'espère que vous comprendrez quand même. Ici, vous imaginez que cette barre, là, ça représente votre ADN. Je rappelle, votre ADN, c'est 3 milliards de paires de bases. Hein, donc, c'est 4 bases qui constituent l'alphabet de notre ADN, A, C, G, T. Vous en avez 3 milliards. Et là, vous imaginez qu'elles sont sur un mode linéaire, les unes à côté des autres. Et puis là, en dessous, on a aligné les génomes des grands singes. On peut aligner les génomes en regardant les régions qui sont homologues et on peut voir où il y a des différences et où il y a des ressemblances. Quand on fait ce travail-là, on s'aperçoit que chez l'homme, il y a des régions que l'on appelle des régions accélérées, où il y a énormément de mutations, alors qu'il n'y en a pas chez les autres. Et ça représente quelque chose d'important. J'y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure avec un exemple. Ça, c'est un autre mécanisme qui peut se passer, c'est-à-dire que vous avez ici un gène qui est présent chez toutes les espèces et qui va disparaître chez l'homme. On connaît des gènes comme ça chez l'homme qui ont disparu et qui donnent une fonction supplémentaire. On a aussi le cas contraire d'un gène qui va se dupliquer. Ça, c'est très, très fréquent. Vous allez avoir des fragments de gènes, des fragments de génome qui se copient et qui vont se mettre ailleurs. On appelle ça des duplications. Et quand vous avez 2 copies d'un même gène, ben, vous avez une copie qui va pouvoir garder la première la fonction ancestrale et une autre copie qui va pouvoir partir à l'aventure et créer des nouvelles fonctions. Ça arrive aussi. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. D'accord ? Votre génome, il est éminemment plastique. Hein. Il ne reste pas aligné comme ça, bien sagement. Non, il y a des tas d'éléments qui sautent d'un endroit à l'autre, d'un chromosome à l'autre, sans arrêt. En général, ça n'a pas de conséquences graves, mais ça peut, à terme, en avoir quand même. Hein. Voilà. Et puis, alors, ce qui peut arriver également, c'est que vous ayez des variations dans le nombre de copies d'un gène. Je vais vous montrer un exemple aussi, vous allez voir ce que ça donne. Alors, je vous rappelle quand même très brièvement que l'ADN, c'est une succession de bases, que ces bases sont après lues 3 par 3 pour synthétiser des protéines à partir des acides aminés, et que ce mécanisme de traduction de l'ADN en ARN puis en protéines, ça ne se passe que dans les régions codantes, dans les régions qui correspondent à des gènes. entre ces gènes, entre ces régions codantes, vous avez des régions non codantes. 98% de votre ADN ne code pas pour des protéines. Par contre, ces régions sont, elles, très importantes pour la régulation de l'expression des gènes. Et l'expression des gènes, c'est ça qui fait ce que vous êtes. Ça va fabriquer des protéines au bon moment, à telle quantité et au bon endroit. Et les protéines, c'est le matériau qui vous constitue, hein, les muscles, tout ce qui est la matière qui vous constitue, ce sont des protéines. Voilà, donc c'est clair, ça, région codante. Alors quand on dit que le chimpanzé a 99%, 98,7% ou je ne sais plus, d'identité avec notre ADN à nous, c'est dans les régions codantes. Les régions non codantes, le travail n'a pas été fait parce que c'est des régions beaucoup plus dures à étudier, puis surtout c'est 98% du génome. Donc ces régions non codantes, elles servent à, on va avoir des, elles servent à la transcription des protéines, et ça veut dire qu'on va avoir des autres protéines qui vont venir se fixer sur des séquences et déclencher l'expression d'un gène. C'est comme ça que ça marche. Hein. Sans arrêt, vous déclenchez l'expression de gène et ou vous réprimez l'expression de gène. Et tout ça se fait dans les régions non codantes. Alors voilà un exemple de duplication de gènes. Il y a un monsieur japonais qui s'appelle Suzumu Ono, qui en 1970 a écrit un livre extrêmement célèbre, L'évolution à partir des duplications génomiques. Et donc voilà un exemple de duplication. Vous avez ici un chromosome. Alors les chromosomes, on les représente souvent avec des petites barres comme ça, parce que dans le temps, les premiers qui ont étudié les chromosomes, ils utilisaient des colorants qui marquaient plus telle région, etc. Ça faisait comme des barres. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on les représente comme ça. Là, vous avez un fragment de chromosome qui se duplique, qui vient se mettre à côté dans cet exemple-là, mais il pourrait très bien aller là ou sur un autre chromosome. Et on a des exemples comme ça de chromosomes, de gènes qui se sont dupliqués et qui ont conduit à des avancées très importantes pour le développement de notre cortex. Un des exemples les plus connus, les plus documentés, c'est un gène qui s'appelle NOTCH2. Donc NOTCH2, on a un ancêtre commun chez les grands singes, il s'est dupliqué partiellement, c'est-à-dire qu'on a une copie qui est venue ici, un petit bout de NOTCH2 est venu ici, et puis cette copie a évolué de manière différente dans les différentes lignées de singes, les chilgorilles, chimpanzés. Cette copie est devenue non fonctionnelle, elle a disparu. Elle a également disparu chez l'homme, mais chez l'homme, elle a été réparée il y a 3 ou 4 millions d'années. Donc la fonction a été rétablie, et non seulement ça, un peu plus tard, on a eu encore des duplications de ça, ce qui fait qu'à l'arrivée, on a 3 copies supplémentaires de NOTCH. Et ça, c'est très important, parce que NOTCH, c'est un gène qui est impliqué dans la prolifération des progéniteurs. Ça veut dire quoi? Renouvellement des progéniteurs, donc vous allez avoir plus de cellules qui vont être générées, des progéniteurs. Ce qu'on appelle les progéniteurs, c'est les cellules qui descendent des cellules souches, qui vont plus tard donner des neurones. Vous en avez davantage. Et quand une cellule se divise et fait de la prolifération, elle ne fait pas de différenciation. Donc pendant ce temps-là, on a une inhibition de la différenciation des neurones. Voilà, donc voilà comment ça. Ça, c'est une autre représentation un peu compliquée. Les chromosomes, ils sont disponibles sur Internet. Hein. Vous êtes sur Internet, vous cherchez chromosome 1, vous voulez voir la structure, vous voulez chercher les gènes, ça va être présenté comme ça. Vous allez avoir le chromosome, et puis vous allez pouvoir encadrer une région, et ça va s'ouvrir, et vous avez les différents gènes qui sont sur ce petit fragment. Puis vous pouvez encore zoner, zoomer un peu plus, et vous allez avoir les bases. Donc vous avez toute cette information est disponible gratuitement, hein, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors si on regarde le gène NOTCH, donc qui s'est multiplié, on en a généralement 3 copies, mais c'est un exemple d'un gène où on voit très bien ici que si on a 3 copies, on est normal. Si on n'a que 2 copies, qu'on voit ici, les deux, au lieu d'en avoir 3, eh bien on va avoir de la microcéphalie. Pourquoi? Parce que les progéniteurs n'ont pas proliféré assez longtemps. D'accord? Et donc, du coup, vous allez générer moins de cellules et vous avez un petit cerveau. C'est ce que l'on appelle la microcéphalie. À l'inverse, si vous avez une copie supplémentaire, vous allez faire de la macrocéphalie, vous allez avoir un gros cerveau. Avoir un gros cerveau, ça paraît bien comme ça, mais dans la pratique, ça fait souvent de l'autisme. Hein, donc, il vaut mieux éviter. Donc, voilà un exemple d'un gène qui, par des duplications, a générer une situation où on va produire plus de neurones à certains stades importants du développement et où on va multiplier donc les cellules qui vont plus tard donner les neurones. D'accord, bon, ça c'est des mesures du cerveau, c'est pas très intéressant. Ça c'est une figure, je pourrais peut-être la zapper, mais c'est pour vous montrer comment sont représentés beaucoup de résultats maintenant. Quand vous avez une population de cellules de cerveau, elles ne sont pas toutes équivalentes, vous avez des systèmes qui vous permettent, selon certains paramètres, de les classer, mettre ensemble toutes les cellules qui se ressemblent, et puis dans un autre paquet, les cellules qui sont différentes, etc. C'est ce qui a été fait là, par cette technique du stochastic neighbor embedding. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ça vous marque les différentes populations de cellules du cerveau. Donc là, on a les cellules gliales radiaires, là, on a les cellules nouvellement formées, là, vous avez les neurones inhibiteurs, là, les neurones excitateurs. Voilà. Donc on peut séparer les populations comme ça, et par-dessus, on peut aller faire des marquages, et par exemple, rechercher où s'exprime le gène NOTCH2NL parmi ces populations de cellules. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que le gène NOTCH2NL qui se superpose exactement au paquet des cellules gliales radiaires. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le gène NOTCH2NL s'exprime spécifiquement dans les cellules gliales radiaires dont je vous ai expliqué quelles étaient les cellules souches du cerveau, celles qui génèrent les neurones. Hein. Et donc vous allez avoir plus de cellules gliales radiaires, plus de prolifération, et donc plus de production de cellules gliales radiaires, etc., etc. Et ça va retarder l'apparition des neurones. Donc vous allez avoir plus de prolifération, et les neurones se formeront plus tard. Ça, c'est un autre exemple, mais il est un peu compliqué aussi, celui-là. C'est un autre gène qui s'est dupliqué. Spécifiquement chez l'homme, il a donné un autre gène, alors il s'appelle ARHGAP11, je suis désolé, c'est pas moi qui choisis les noms des gènes, et ce gène, il est trouvé uniquement chez Sapiens. Il s'est dupliqué, il a généré, ça c'est la protéine initiale, et le gène dupliqué, il a perdu une partie de sa séquence, ce qui fait que la protéine qui est fabriquée, au lieu d'être longue comme ça, elle est comme ça, elle est plus courte. Et ça, c'est dû au fait que la substitution d'une seule base, changement d'une cytosine en guanine, ça introduit ce qu'on appelle un codon stop, c'est-à-dire que la protéine va arrêter d'être fabriquée à cet endroit-là. Et donc, vous avez une protéine plus courte à la fin. C'est ce qui s'est passé. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que si on prend le gène ARHGAP11B humain et qu'on le met chez une souris, avec des techniques d'injection de virus, etc. Donc là, on l'injecte dans le cortex, et puis on attend pour regarder ce qui se passe. Ben, ce qui se passe, c'est que cette souris, elle va avoir dans la région où on a injecté des plis qui apparaissent à cause d'une surproduction de cellules progénitrices et donc de neurones. Et voilà une explication qui nous permet de comprendre en partie comment on a ces circonvolutions qui apparaissent dans notre cerveau. C'est un des mécanismes aussi. Alors, il y en a plein d'autres. Hein. Je vous fais la version simple. Hein. Si on prend ce gène et qu'on le met chez le Ouistiti, voilà, ce petit singe-là, on le met chez le Ouistiti, on l'implante dans le génome, on remplace le gène du Ouistiti par le gène humain. Voilà le résultat. Ça, c'est le témoin, c'est le Ouistiti qui n'a pas été bricolé. Ça, c'est le Ouistiti qui a reçu le gène humain. Et vous voyez que son cerveau est beaucoup plus gros, il est plus long, plus gros. Et si on regarde la structure, on voit que la structure est plus complexe, et notamment qu'on a beaucoup plus de cellules dans les couches externes du cerveau. D'accord? Hein? Donc c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous expliquer comment intimement les choses peuvent se passer. Donc on a plus de prolifération pendant plus longtemps, et le résultat, c'est que à l'arrivée, ben ça c'est le chimpanzé, et ça c'est l'homme, on a beaucoup plus de neurones, et notamment dans les couches externes du cortex. Non seulement on a plus de neurones, mais en plus ces neurones ont plus de connexions. Je vous ai parlé tout à l'heure des épines dendritiques, de ces petites protubérances qu'on voyait, qui sont les endroits où vont venir s'établir des synapses, des contacts entre deux neurones. Et on voit que dans les neurones, ça ce sont des neurones humains, Et vous voyez qu'on a énormément de ces petites protubérances qui permettent de recevoir des synapses. Bon, là, je vais un peu zapper parce que c'est un peu compliqué, mais on connaît des mutations qui font que chez l'homme, on a plus de synapses que chez les autres. Donc, ça peut s'expliquer ça aussi par des gènes qui sont connus. Bon, il y en a certainement d'autres qu'on ne connaît pas, mais c'est un des mécanismes qui permet de multiplier la communication entre les neurones du cortex. Ça, c'est l'évolution de la morphologie des neurones du cortex, donc des arbres dendritiques plus longs, plus importants, avec plus d'épines dendritiques. Voilà à quoi ressemble un neurone pyramidal en vrai, avec ses épines dendritiques. Et puis ici, j'ai une petite vidéo qui vous montre... ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Tous les petits points jaunes que vous voyez là, c'est des protéines qui ne s'expriment que dans les synapses. Donc chaque petit point jaune ici, c'est une synapse. Et vous voyez le nombre de synapses qui s'établissent sur ce neurone, énormément d'autres neurones qui viennent connecter ce neurone-là, et ils échangent des informations, ils influencent leur activité les uns les autres, etc. etc. Voilà. Là, je fais juste un petit retour sur les régions accélérées chez Sapiens. Donc je vous ai dit qu'il y avait des régions où on avait des séquences qui étaient tout à fait équivalentes chez la souris, le furet, le gorille, etc. Et puis tout d'un coup, dans cette région-là, chez l'homme, on a plein de mutations. Chaque barre, c'est une mutation. Vous avez donc une accumulation de mutations à un endroit bien précis. Ces régions-là ont été baptisées par la personne qui les a découvertes. C'est une chercheuse canadienne. Human Accelerated Regions. Des régions accélérées chez l'humain. Et on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais on en a trouvé 49. 49 régions comme ça. Et elles ont été numérotées. Et les premières, c'est HR1, HR2, HR3, HR, etc. Et il y en a une qui a été très étudiée, c'est HR5. HR5, si vous prenez la séquence HR5 humaine et que vous la mettez dans le génome d'une souris, à la place de la séquence de la souris, vous allez avoir une souris qui va avoir un plus gros cerveau. Voilà, on le voit ici, avec une déformation ici du ventricule qui est plus grand. La longueur ici est plus grande. On voit ici que c'est un peu plus grand. Voilà, un autre mécanisme par lequel on a une expansion du cortex cérébral. Bon, j'arrête là avec la génétique parce que c'est un peu compliqué. Voilà, un petit mot sur le langage. Le langage, on ne sait pas exactement quand il est apparu. On pense que Néandertal et Denisova savaient parler, mais on n'en est pas vraiment sûr. On pense que le langage est apparu il y a peut-être, même chez Homo erectus déjà, il y avait probablement un proto-langage qui s'est après affiné, etc. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des structures cérébrales impliquées dans le langage ? On connaît des régions qui sont très importantes pour le langage. Une qui a été découverte par Paul Broca, que vous connaissez peut-être parce qu'il y a un gros hôpital à Paris qui s'appelle Paul Broca. Paul Broca, il avait un patient qui s'appelait Tan. Et ce patient s'appelait Tan parce que la seule chose qu'il était capable de dire, c'était Tan. Il répétait tout le temps Tan, Tan, Tan. Et Broca, il a passé un deal avec ce patient. Il lui a dit, écoute, c'est un patient qui était pauvre, qui était nécessiteux. Il lui a dit, bon, tu restes à l'hôpital, on s'occupe de toi gratuitement, mais quand tu meurs, tu me donnes ton cerveau. Alors, c'est ce qui a été fait. Le gars est resté à l'hôpital. Quand il est mort, Broca a récupéré le cerveau. Il a fait des coupes et il a découvert un territoire qu'on appelle le territoire de Broca maintenant, un territoire fondamental pour le langage. Si on lèse ce territoire, on va avoir des gens qui vont être incapables d'articuler des sons reconnaissables. Après, il y a eu un monsieur qui s'appelait Wernicke, qui a découvert, lui, l'aire de Wernicke. Et l'aire de Wernicke, c'est quand elle est abîmée, les gens sont capables de produire des sons, mais ces sons n'ont pas de sens, ils ne sont pas capables de faire des phrases, ils ne sont pas capables de faire de la syntaxe. Voilà. Alors, comment on a découvert ? On pense qu'il y a un gène qui est impliqué là-dedans, qui s'appelle FOXP2. Alors, FOXP2, comment on l'a découvert ? On l'a découvert chez les Anglais, une famille anglaise dans laquelle il y avait beaucoup de gens qui étaient atteints de ce qu'on appelle l'aphasie verbale, incapables de parler correctement. Et sur cet arbre généalogique, ceux qui sont en noir, c'est tous ceux qui sont atteints de cette pathologie, incapables d'articuler correctement. Ça ne les empêche pas de se reproduire, visiblement, mais ils ne sont pas capables de les articuler correctement. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les généticiens? Ils se sont intéressés à cette famille, où il y a quand même beaucoup de cas, vous voyez. Ils ont séquencé l'ADN, ils les ont alignés, et ils ont comparé évidemment les malades avec les non-malades, et ils ont découvert que dans une séquence de l'ADN du gène qu'on appelle FOXP2, il y a deux mutations en position 303, donc ça c'est les protéines, hein. C'est la protéine, les séquences protéiques. Vous avez des mutations en position 303 et 325. Ils ont fait des expériences chez la souris. Cette mutation-là, elle est handicapante pour le langage. Celle-là, c'est pas important. Et quand vous avez cette mutation-là, eh bien, vous avez des troubles du langage, dyspraxie verbale, le QI est diminué, vous avez des retards de développement, etc. Alors ce gène FOXP2, on en a fait le gène du langage, enfin, ça, c'est les journalistes. Hein. Gène du langage, ça n'existe pas. C'est probablement beaucoup de gènes qui font qu'on a été capable de développer du langage. Mais en tout cas, ce gène, c'est quoi? C'est un facteur de transcription. Un facteur de transcription, c'est une protéine qui se fixe sur l'ADN et qui va induire l'expression d'autres gènes, et notamment de toute une série de gènes qui sont importants pour le développement de la zone du larynx, de la zone de la langue, etc. Tout un tas de gènes qui sont impliqués là-dedans. On ne sait pas exactement ce que c'est, que fait FOXP2. Ce qu'on sait, c'est qu'il est impliqué dans la genèse du langage. Très important également, c'est les connexions qui sont impliquées, qui se développent entre l'aire de Broca ici, l'aire de Wernicke ici. Ça, c'est chez le macaque et ça, c'est chez l'homme. Vous voyez l'importance de ces connexions, cette connexion qu'on appelle le faisceau arqué, hein, qui est parfaitement bien connue et qui fait que vous êtes capable à la fois de fabriquer des phrases dans votre tête et de les prononcer pour que les autres puissent les comprendre. J'ai presque fini. Hein. Alors, la grosse tête, c'est très bien, on a des gros cerveaux formidables, sauf qu'il ne faut pas exagérer, parce que si on exagère, on a des gros soucis à la parturition, on a des gros soucis de dépenses énergétiques, et puis si on a trop de neurones, etc., c'est trop compliqué, on finit par avoir des maladies psychiques. Tout ça, on le sait, c'est connu. Hein. Alors, parturition, toutes les femmes ici qui ont eu des enfants savent que ce n'est pas un moment très agréable. Il faut faire passer les têtes du bébé dans le bassin. Et malheureusement, au cours de l'acquisition de la bipédie, le bassin il a basculé vers l'avant et on se retrouve avec un petit orifice ici pour faire passer la tête de bébé, beaucoup plus petit que chez Lucie ou chez les chimpanzés. Je raconte toujours cette anecdote, mais personne n'a jamais vu la naissance d'un bébé chimpanzé. Ça se passe tellement vite. Il y a la femelle qui se balade, là, puis hop, tout d'un coup, il y a le bébé qui tombe, il n'y a pas eu de signe précurseur, et on n'a jamais pu filmer la naissance d'un chimpanzé. Bon, chez les femmes, ce n'est pas tout à fait comme ça. Hein. Voilà, donc on a des grosses têtes pour des passages étroits, et ça pose un problème d'un point de vue développemental, et la solution trouvée par l'évolution n'est jamais à court de solution, hein, parce que de toute façon, quand il n'y en a pas, eh ben, ça ne se propage pas, donc on ne sait pas, et voilà. C'est pour ça que l'évolution, c'est toujours, on dit toujours, c'est bien fait, la nature et tout. Ben oui, parce que quand c'est mal fait, ça ne marche pas. Voilà, alors la solution trouvée par l'évolution, ça a été de faire naître les bébés à un stade de maturation très, très précoce, et donc ils n'ont pas encore atteint la taille maximum du cerveau. Un chimpanzé à la naissance a 50% de son cerveau qui est fini. Chez l'homme, c'est 25%. Donc on a une petite tête, elle est plus facile à faire passer par les détroits étroits. Et puis ce cerveau se développe après, vous voyez, il faut avoir 18 ans pour avoir un cerveau entièrement développé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce développement-là, il se fait dans un milieu familial, sociétal, etc., est terriblement enrichi. C'est le moment où vous allez faire des connexions. Vous avez ici l'établissement des connexions. Ça, c'est selon la technique développée par Camille Golgi. On voit très bien ici les neurones qui établissent des connexions de plus en plus complexes au fur et à mesure que le temps passe. Et ces connexions, c'est l'établissement des synapses. C'est l'établissement des circuits intracérébraux qui vont être dédiés à telle ou telle fonction. Et on voit donc que la formation des synapses, elle est retardée par rapport à la formation des neurones. Voilà, alors on sait pourquoi, parce qu'il y a des gènes dans les synapses et des protéines qui s'expriment, et ces protéines, on connaît les gènes qui les fabriquent, et on voit ici, par exemple, que chez Sapiens, un gène ici qui s'appelle MEF2A, eh ben, il s'exprime très tardivement, à l'âge de 1 an, il commence à s'exprimer, alors que chez le chimpanzé, le macaque, chez le macaque, parce que le chimpanzé n'a pas été étudié, parce qu'on n'a pas le droit de tuer des embryons de chimpanzé. Et donc, on voit que ben, par rapport au macaque, chez Sapiens, les gènes, les protéines importantes pour la formation des synapses apparaissent beaucoup plus tard. Ça, c'est une synapse avec toutes les protéines impliquées. Bon, je passe là-dessus. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous développer les différentes capacités de votre cerveau après la naissance dans des milieux très favorables à des apprentissages. Donc on sait que pour chacune des capacités, les principales capacités des enfants, on a ce qu'on appelle des périodes critiques ou des périodes sensibles qui sont figurées ici. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le Council for Early Child Development aux États-Unis. Et ce qu'on voit ici, c'est que les premières capacités à se développer, c'est la vision, l'audition, et puis ce qu'on appelle le contrôle émotionnel, c'est-à-dire la perception des visages que les enfants reconnaissent, etc. Et puis des fonctions plus complexes apparaissent beaucoup plus tard, comme les chiffres, la notion des chiffres, la notion du langage, la capacité de symbole apparaît beaucoup plus tard, parce que tout ça c'est géré par les couches externe du cortex cérébral. Donc le résultat, c'est que vous avez un ralentissement programmé de la formation des synapses qui favorise l'assimilation socioculturelle des enfants et participe à leur développement cognitif. Et du coup, vous avez des enfants hypersociaux, hyperculturels. Vous rajoutez à ça qu'avec le langage, l'apprentissage, plus l'écriture, on est capable à chaque génération d'incrémenter la somme de connaissances et de cultures que nous avons. Du coup, on construit sans arrêt, on augmente tout ça. Et voilà pourquoi on est là où on est aujourd'hui à détruire notre environnement à force de faire de la technologie de pointe. Bon, ça c'est un autre problème. Un dernier mot sur les gros cerveaux. Les gros cerveaux, c'est très bien, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Ici, vous avez le cerveau, c'est 2% du poids du corps chez l'homme, et c'est 20% d'énergie qui est consommée par le cerveau, 25% du glucose. Donc c'est énorme. La consommation du cerveau en oxygène et en énergie, c'est énorme. Et donc il y a une limite à ça. Il faut toujours trouver un compromis qui fait qu'on dépense une énergie acceptable par rapport à ce qu'on est capable d'accumuler en énergie. Et donc le compromis, c'est la situation dans laquelle on est actuellement. Alors les neurones, ils captent pas le glucose directement. Il y a des cellules dans le cerveau qui s'appellent des astrocytes qui font le lien entre les vaisseaux sanguins qui apportent le glucose avec l'hémoglobine, enfin les neurones. Donc on a des espèces de qu'on appelle des pieds astrocytaires qui viennent se mettre là, qui vont capter l'oxygène. L'oxygène n'est pas métabolisé directement, passé aux neurones, il est transformé par tout un tas de réactions chimiques, notamment des lactates, des molécules d'ATP, etc., qui vont fournir de l'énergie aux neurones. Ces astrocytes ne sont pas seulement impliqués dans la fabrication, dans la métabolisme du glucose, ils sont aussi très importants pour le fonctionnement des synapses. On a appris récemment que ces astrocytes modulaient l'activité des synapses en venant établir des petits contacts ici au niveau des synapses. Alors, est-ce qu'on a des astrocytes magiques chez l'homme? Eh bien oui. Nos astrocytes sont beaucoup plus gros que les astrocytes humains. Ils couvrent des territoires énormes. Ils fonctionnent en réseau. Ils sont capables de mettre en connexion des territoires entiers grâce à des interactions avec des vagues de calcium qui se propagent, etc. Ce qu'on voit ici, c'est également que si on regarde la souris et Sapiens, si on regarde la dimension des astrocytes, on voit qu'ils sont beaucoup plus gros chez l'homme. Le nombre de prolongements, on voit qu'on en a plus, le volume, beaucoup plus, et le nombre de synapses que ces astrocytes vont moduler, également très supérieur à la moyenne. Donc voilà encore un facteur qui va permettre d'augmenter les capacités cognitives et la communication entre les neurones dans le cerveau humain. Et ce qui est très important également, c'est la maîtrise du feu et la cuisson des aliments. Si on était des gorilles, il faudrait qu'on mange 14 heures par jour. Donc évidemment, pendant ce temps-là, on ne ferait pas autre chose. Donc la maîtrise du feu, la cuisson des aliments, ça permet une meilleure digestibilité, ça permet un gain de temps. Et puis le feu, c'est aussi vachement sympa pour discuter le soir à la veillée. Avant, quand il n'y avait pas de feu, ben, les gens ils faisaient rien, ils s'endormaient. Alors que là, ils ont le feu, ils communiquent, ils se racontent des histoires, ils inventent des choses, ils taillent des pierres, etc., etc. Et ça a été évidemment très important dans le développement de la sociabilité chez les sapiens. Donc voilà, j'en ai terminé. Un petit résumé de ce que j'ai dit. La bipédie, bien sûr, très important. Un gros cerveau, enfin, plus de neurones, plus de connexions, plus d'interactions. Le langage, évidemment, ça c'est fondamental. Le langage a été fondamental. Le feu, je viens d'en parler. La neurogénèse corticale qui est particulière avec cette amplification du nombre de progéniteurs, du nombre de neurones. Un cortex associatif surdimensionné, c'est-à-dire on établit des communications dans tous les sens. Et ça, évidemment, ça vous permet d'avoir une meilleure représentation du monde, de votre place dans le monde et de ce que vous devez faire pour survivre dans ce monde. Altricalité primaire et secondaire, ça c'est le développement tardif qu'on appelle aussi la néothénie, c'est-à-dire le cerveau qui se développe plus tard et qui va se développer pendant des années. À l'heure actuelle, vous continuez à développer votre cerveau d'une certaine manière. En étant ici, je suis en train de changer l'organisation de votre cerveau. Bon, je ne me fais pas d'illusions sur les effets à long terme, hein. Mais bon. Voilà, et puis alors on a ces fameuses régions accélérées chez l'homme, avec ces accumulations de mutations, dont on peut d'ailleurs de se demander pourquoi l'évolution va conduire à ces accumulations de mutations à certains endroits du génome, pourquoi là pas ailleurs. Ça c'est un grand mystère qu'on n'a pas encore percé. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.
Je n'affirmerai pas qu'on a tout compris.
Comment t'as pas compris? Il y a des trucs qui sont faciles quand
tu
même.
Tu pourrais me donner une leçon particulière?
C'est la génétique qui est un peu compliquée, oui, parce oui, que vous n'êtes pas des généticiens. Donc,
mais fondamentalement, on a compris qu'on n'a pas le même cerveau.
Non, voilà. Voilà. Et vous avez compris quelques mécanismes.
Voilà. Et qu'on est quand même une grosse usine chimique, quand même.
Comment ?
Une grosse usine chimique, non ?
Ah bah absolument.
Une grosse usine chimique.
Je me bats constamment avec un copain à Pujol qui pense que la pensée, ça émerge comme ça. Non, ça n'émerge pas comme ça. La pensée, c'est de la chimie, avant tout.
Ben oui. Bon, je prendrai une question, une seule.
Et pourquoi une seule question ?
Je sais pas, est-ce que on peut parler de la mémoire ? Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on considérait que le cerveau, enfin nos acquis, notre mémoire, était rasé régulièrement jusqu'à l'âge de 7 ans, et puis après on arrivait à conserver notre mémoire. Et puis les derniers travaux, alors je vous dirai pas de qui ils sont parce que mais ils pensent que au contraire, le cerveau, la mémoire n'est pas complètement effacée au cours du temps.
Non, tu n'effaces jamais complètement ta mémoire.
Oui, bien sûr.
C'est ce qu'on appelle la mémoire autobiographique, tu gardes des souvenirs de ton enfance. Et c'est évident que tu es obligé d'effacer. Ça, c'est le rôle de l'hippocampe, c'est ce qu'on appelle l'effacement des traces mnésiques. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas très important, tout ce qui t'a pas vraiment marqué, qui n'est pas associé à des émotions, etc., qui n'a pas créé ce qu'on appelle des mèmes maintenant, des souvenirs très forts, tu vas l'oublier. Et ce que j'ai oublié de dire, que je n'ai pas dit plus tôt pour ne pas compliquer, c'est que quand on a le développement des synapses, vous vous souvenez de cette image que je vous ai montrée ici, voilà celle-ci, on voit que jusqu'à cet âge-là, on a une augmentation des réseaux synaptiques et au bout d'un moment, on a une simplification de ça. Parce que c'est vrai que les enfants, ils sont tellement plastiques, ils construisent des tas de connexions dans tous les sens et c'est exactement ce que tu dis, au bout d'un moment, on en efface une partie, on ne garde ce qui est fondamental. Enfin, qui paraît fondamental au cerveau. C'est pas conscient, bien sûr. C'est des mécanismes inconscients.
Évidemment. Merci.
Ah ben là, tu me rassures.
Parce que c'est vrai qu'on peut donc oublier pas mal de souvenirs d'enfance, de sa très jeune enfance. On peut les oublier s'ils ne t'ont pas marqué.
S'ils ne t'ont pas marqué, oui.
Ah bon, ça me rassure.
Tu te souviens essentiellement des souvenirs qui t'ont marqué. Il y a une chose que je voudrais dire, parce que c'est très important. Une synapse qui n'est pas utilisée, elle disparaît. Vous voyez, synapse, deux neurones qui vont se contacter, qui font une synapse. Cette synapse, si vous l'utilisez beaucoup, elle va se renforcer, qu'on appelle le renforcement mnésique, avec des histoires de longue potentialisation à long terme, etc. Si vous ne l'utilisez pas, elle va diminuer. Il en est dans le neurone, comme de l'évolution darwinienne. C'est le plus costaud qui va gagner. Enfin, c'est on fait une image un peu simpliste, mais les neurones sont en compétition les uns avec les autres pour l'établissement des synapses. Ceux qui sont les plus utilisés, qui échangent le plus de neurotransmetteurs, excitateurs, etc., vont se renforcer, gagner sur les autres. Donc ça, c'est très important à garder en mémoire. Et c'est pour ça que la répétition, c'est très important pour apprendre l'étape de multiplication. Moi, je me souviens que des séances d'apprentissage d'étape de multiplication quand j'étais petit, avec ma mère, eh ben, elle faisait répéter jusqu'à ce que ce soit bien ancré. D'ailleurs, elles sont toujours là.
Faut-il apprendre par cœur ?
Ah, ça, je ne sais pas. Ça, il faut demander aux spécialistes.
Non, mais les cours de diction qu'on avait, qu'on n'a plus, on récitait des trucs, et moi, je peux...
Ben, je pense que ce sont des exercices intéressants. Mais bon, quand tu crées un circuit mnésique pour une table de pour une poésie, ben, pendant ce temps-là, tu ne l'utilises pas pour autre chose. Il faut trouver un juste équilibre, pas faire que du par cœur.
Non, je sais bien. Mais...
Et puis, tout le monde n'est pas égal devant la mémoire. Tu as des gens qui en ont plus que d'autres, au moins. C'est compliqué, le cerveau.
En fait, j'en aurais deux, mais bon...
Mais laisse, Geneviève, pourquoi tu les empêches de poser des questions s'ils ont envie?
Jules Merci je voudrais savoir si on a pu estimer, à partir de l'empreinte qu'il y avait sur la boîte crânienne de Néandertal, combien de surface faisait son cortex par rapport au nôtre. Ça, c'est la première
Alors,
question.
Alors, Néandertal est connu pour avoir un cerveau plus grand que le nôtre.
Oui, mais je pense de la...
1500 cm cubes.
Oui, mais je parle de la surface du déplié du cortex par rapport au nôtre.
Ça a sûrement été calculé. Hein, ouais. Parce que les cerveaux, les méninges laissent
oui,
des traces.
Oui, je sais, mais oui, c'est pour ça que je pose la question.
Ce qu'on appelle l'endocaste, c'est l'empreinte du cerveau. Je ne sais pas, ça a probablement été calculé, je ne connais pas le chiffre. Désolé.
Et la deuxième question, si je peux, qu'a donné en fait le fait que c'est des animaux donc ont reçu des gènes humains et donc ça induit un développement différent. Je voudrais savoir si ces animaux se sont reproduits et si ces différences, ces évolutions ont persisté ou au contraire ont été éliminées.
Ça dépend si vous avez fait une manipulation du génome, ce qui est héritable. Si les animaux se reproduisent, ils vont la passer à la descendance. Mais il y a des techniques d'injection de gènes avec des virus. C'est notamment celui que je vous ai montré avec le cerveau de la souris qui se plissait. Là, c'est pas une insertion dans le génome. C'est injection de gènes dans une certaine région avec des vecteurs qui vont rentrer dans les cellules et qui vont donner des résultats. C'est pour ça que l'apparition des plis était très localisée à l'endroit de l'injection. Non, c'est pas une modification du génome, c'est une modification, une insertion d'un fragment de gène dans certaines cellules. Et on a des techniques qui permettent de faire ça.
Et donc ça disparaît à la génération.
Oui, puis de toute façon, ces animaux-là, ils sont condamnés parce qu'on va les tuer après anesthésie pour étudier leur cerveau. Donc c'est de la recherche, hein, c'est pas de l'élevage. Oh, ça a peut-être été fait, mais je ne suis pas au courant.
Moi, je voudrais être un peu plus basique. Je voudrais savoir si le rêve utilise beaucoup d'énergie au niveau du cerveau.
Alors ça, je ne sais pas. Mais j'imaginerais que oui. Hein. C'est des neurones qui travaillent et c'est des neurones qui dépensent de l'énergie. Hein. Alors, puisque vous parlez du rêve, il y a un aspect intéressant que je n'ai pas abordé, c'est le nettoyage du cerveau. La nuit, votre cerveau est nettoyé. Il y a tout un système de drainage qui met en jeu des, ben justement les cellules gliales, les astrocytes, dont j'ai parlé, avec les pieds astrocytaires, qui servent à générer un espèce de flux dans le cerveau, qui est évacué après par les systèmes lymphatiques des méninges, parce que dans le cerveau, il n'y a pas de vaisseau lymphatique. C'est pour ça que la question de savoir comment le cerveau se nettoie est une question qui n'a été résolue qu'il y a 10 ans. Hein. Et maintenant, on sait donc qu'il y a cette espèce de drainage qui est basé sur le flux sanguin. À chaque fois que le cœur bat, on a une petite pulsion qui va faire que dans le cerveau, on va avoir un flux qui va se créer, qui va in fine conduire le liquide qui est extracellulaire vers certaines veines et vers le liquide céphalo-rachidien, vers les méninges et vers les vaisseaux lymphatiques des méninges. Tout ça étant après évacué par la veine pectorale.
Eh ben...
Donc ça, c'est quelque chose de nouveau.
Ah oui.
Parce que votre, on a dit que c'était de la chimie. La chimie, ça utilise de l'énergie. L'énergie, ça génère des déchets. On est bien au courant de ça dans les sociétés humaines. On baigne dans les déchets. Donc, il faut que tout ça soit évacué. Dans votre organisme, c'est le système lymphatique qui fait ça. Dans le cerveau, il n'y a pas de circuit lymphatique. Mais il y a un système, ça, la nature a prévu ça aussi, d'évacuation des déchets par une espèce de drainage.
D'où le
besoin. Se fait la nuit.
D'où le besoin de dormir.
Pourquoi la nuit ? Parce que la nuit, l'activité des cellules diminue, donc les cellules diminuent un petit peu de taille. Et donc vous avez plus d'espace extracellulaire, et donc de plus de liquide qui circule, et donc plus de drainage à l'arrivée. Quoi. Donc ça, c'est des découvertes très très récentes, et la dame qui a découvert ça au Danemark, j'espère qu'elle va avoir le prix Nobel, parce que c'est fondamental. Ah, ça, je ne sais pas. Bon, ça a sûrement dit dans ses publications, mais... Pardon ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas tout, hein. Et puis, c'est très compliqué, hein, le cerveau.
Vous en savez déjà pas mal. Hein. Bon, merci, ça nous a quand même un petit peu éclairé. Merci beaucoup. Enfin, on a compris qu'il fallait dormir aussi.
Ah, il faut dormir, oui, ça, c'est certain. Il faut dormir.
Eh bien, encore une fois, merci beaucoup.